Qui affrontera Donald Trump dans 8 mois dans la course à la Maison Blanche? Le socialiste Bernie Sanders, 78 ans.
Nous allons battre le plus dangereux président de l'histoire des États-Unis.
Ou Joe Biden, 77 ans, ancien numéro 2 de Barack Obama.
Cette campagne va renvoyer Donald Trump chez lui.
Les deux candidats se retrouvent au coude à coude et c'est seulement en juillet que le camp démocrate désignera officiellement son champion pour affronter Donald Trump.
Qui je voudrais voir gagner? Mais n'importe qui, je prendrais n'importe qui, c'est comme ça que ça va marcher, peu importe.
Si le président de l'America First était battu, le style diplomatique changerait forcément.
Les rois, les reines, premiers ministres, présidents, dictateurs, je les rencontre tous. Tous ceux qui veulent venir. Les dictateurs, c'est bon, venez, tant que c'est bon pour les États-Unis.
Avec Joe Biden, l'Amérique assumerait de nouveau son rôle de leader mondial. Une démocratie modèle, prête à dialoguer avec l'Iran sur la question du nucléaire. Bernie Sanders, opposé aux actions militaires, sauf en cas de nécessité absolue, miserait tout sur la coopération internationale.
Nous allons remettre les mineurs au travail. Oh, pays du charbon, qu'est-ce qu'ils ont fait de toi ?
Avec un démocrate à la Maison Blanche, fini le charbon. Les États-Unis rejoindraient l'accord de Paris sur le climat déchiré par Donald Trump. Objectif pour Joe Biden, une économie décarbonée en 2050. Bernie Sanders renoncerait même au gaz de schiste qui assure l'indépendance énergétique des États-Unis. Alors les cartes du monde seront-elles complètement rebattues en novembre? Qu'est-ce que cela changerait pour nous, Européens?
Téléspectateurs qui voudraient savoir, et on comprend bien pourquoi, s'il y a un âge maximum pour se présenter à la présidence des États-Unis. Jean-Éric Brana, l'âge minimum, c'est 35. Il n'y a visiblement pas d'âge maximum parce que Trump aura 78 ans à la fin d'un éventuel second mandat. Mais il est tout jeune à côté de Joe Biden qui aurait 81 ans à la fin d'un mandat et Sanders 83 ans. Est-ce que cette question de l'âge, c'est un enjeu dans la campagne? Est-ce que c'est un sujet pour les Américains?
Bah écoutez, Trump en a plaisanté, c'est le président le plus vieux jamais élu et il a dit « Pourquoi vous allez me mettre un vieux en face ?» Donc effectivement, c'est assez étonnant, ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas un sujet.
Pour la population, non.
Et non. Et on a pensé à un moment au cours du... C'était le deuxième débat dans la campagne des démocrates où effectivement la question a été posée par un candidat que tout le monde a oublié aujourd'hui qui est arrivé de Californie et qui a expliqué que quand il était très très jeune, il avait été voir un vieux homme politique en disant, et cet homme politique nous expliquait qu'il fallait laisser la place, cet homme politique c'était Biden, qui était déjà très vieux dans sa tête, et ça l'a fait sortir de la campagne, parce que tout le monde a hurlé en parlant d'âgisme, depuis plus personne n'en a parlé.
Mais ça dit quelque chose, cette espèce d'éventuelle gérontocratie, ça dit quelque chose sur l'Amérique elle-même?
En fait, je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les Américains démocrates ont cherché une valeur refuge. Et en fait, ils l'ont trouvé soit dans la version progressiste à travers Bernie Sanders, soit dans la version centriste modérée à travers Joe Biden. C'est que l'un comme l'autre incarnait le mieux leur propre ligne idéologique. Et alors, du coup, c'est les plus âgés, c'était aussi les plus connus au départ. C'est un peu, en fait, les jeunes moins connus, les nouveautés ou les gens qui étaient un peu en dehors du système qui ont fait les frais
de cette envie, des valeurs sûres. Alors, le chiffre du jour à propos de ce fameux Super Tuesday et du nombre d'États dans lesquels il y a eu vote.
Exactement. Le chiffre du jour, c'est 10, car sur les 14 États qui étaient en jeu lors de ce Super Tuesday, Joe Biden en a rapporté 10. Alors, Martin Quincey, dites-nous, c'est plié? C'est Joe Biden qui va être candidat pour les démocrates?
Pour moi, ce n'est pas plié. Pour moi, je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a à peu près moins d'une semaine, beaucoup pensaient que Biden était déjà perdant, il n'avait pas de futur et Sanders était sur une pente ascendante. Je pense qu'il faut être un peu donc modeste aujourd'hui à faire l'inverse et de dire c'est fini, vous savez, clairement, Sanders n'a plus aucune chance. Il y a encore beaucoup de délégués en jeu dans les 2 à 3 semaines à venir. Il y a une dynamique qui est intéressante suite à la victoire de Biden, d'abord en Caroline du Nord, puis hier. Mais moi, j'attends encore de voir ce qui va se passer en interne. Il y a des reports de vote qui vont jouer. Il y a la question de l'argent de Bloomberg qui va affluer
qui a renoncé.
Qui soutient désormais Biden et qui donc va aider profondément à sa campagne. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, mais pour moi, non, clairement, Sanders n'a pas encore perdu. Les choses peuvent évoluer très rapidement.
Qu'est-ce qui pourrait faire perdre aujourd'hui Biden, par exemple, par rapport à Sanders? Quelles sont les dernières choses en jeu dans la campagne qui pourraient faire tomber d'un côté ou de l'autre?
C'est la bonne question, puisque moi, je pense que Biden va gagner, contrairement à ce que disait Quentin. Et effectivement, il y a assez peu de choses qui peuvent le faire perdre, parce que ce qui le fait marcher, en réalité, c'est la division du pays. C'est là-dessus qu'est basée sa réussite, sa campagne, et certainement son succès à la fin.
Faire perdre contre Trump.
Oui, absolument. En réalité, en même temps, une fois qu'on a dit ça, il se passe toujours quelque chose dans les campagnes américaines. Il y a l'événement d'octobre, comme on dit, donc on va attendre le mois d'octobre pour voir ce qui va se passer. Il y a l'événement, évidemment, je ne sais pas, on va dire, en ce moment, c'est la grande blague partout, le coronavirus, c'est...
Il y a des dossiers, il y a des
vu l'âge, et on en a parlé. Ouais. Non, les dossiers, en réalité, ils sont déjà passés. Vous savez, Biden, c'est quelqu'un qui a fait 36 ans de Sénat, qui a fait 8 ans de vice-présidence, croyez-moi, il a le cuir dur maintenant. Et souvenez-vous, quand il est rentré en campagne au mois de mars, on expliquait qu'il caressait trop près les jeunes filles ou les enfants. Ça ne l'a pas empêché de rentrer en campagne, même si tout le monde pensait à ce moment-là aussi que c'était une impossibilité pour lui. Donc les dossiers, je les mets de côté. Mais il y a toujours l'événement qui, et en particulier à son âge, on peut réellement se poser la question, pour lui comme pour Sanders d'ailleurs, de la maladie, de la santé, donc, et ça peut effectivement faire basculer.
Anne.
Oui, Célia Belin. Est-ce que les médias ont et vont avoir une influence sur cette élection?
Comme on a vu là, l'élection des primaires se renverser complètement en moins d'une semaine, on se demande un peu ce qui a pu se passer. Et je me disais que l'influence des médias et de la conversation médiatique générale a probablement joué très très fort, puisque les gens se sont clairement décidés dans les tout derniers jours. Ils sont décidés à la lumière de la victoire de Joe Biden en Caroline du Sud. Et là, subitement, alors qu'il n'était pas du tout favori des sondages, ils se sont tous alliés à lui. Donc à la fois, c'est peut-être les médias, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Et donc oui, les médias, ça joue, mais ça joue aussi très rapidement à l'ère de Twitter.
Oui, mais quand on voit comment les médias étaient anti-Trump lors de la dernière élection et que Trump a été élu, on se dit que ça n'a plus vraiment... Enfin, ça peut même avoir une influence inverse, non, M. Bradin?
Alors, en réalité, les médias étaient anti-Trump, mais ils parlaient de Trump. Ils parlaient de Trump matin, midi et soir, et pas simplement aux États-Unis, dans le monde entier. C'est une caisse de résonance extraordinaire. Souvenez-vous même, les émissions de télé politiques aux États-Unis, s'il n'y avait pas Trump, elles ne marchaient pas. On avait même des émissions où Trump arrivait au téléphone pour pouvoir faire monter l'audience. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et Trump à lui-même expliquer cette chose-là en disant on se moque de ce qu'on va dire de vous, le principal c'est qu'on parle de vous.
Martin Quincey, si Joe Biden était élu, nous utilisons des conditionnels, quelles incidences pour nous, l'Union européenne, quel changement de façon générale, quelle politique étrangère mènerait-il, en l'occurrence en direction de l'Union européenne?
Alors c'est vrai que le principal changement après Trump serait vis-à-vis des alliés, et notamment des alliés européens. Pourquoi? D'abord parce que indépendamment des tendances lourdes qui est que les États-Unis ne veulent pas participer aux actions militaires au Moyen-Orient, ne veulent plus avoir la seule responsabilité de la sécurité européenne, il y a quelque chose qui est quand même assez spécifique à l'administration Trump, c'est son hostilité au projet européen.
Et à l'OTAN.
À l'OTAN et au multilatéralisme dans son ensemble. Ça, cette hostilité-là, on ne l'aurait pas avec une administration Biden. On aurait véritablement une administration qui pense que le projet européen, l'intégration européenne est bonne pour les intérêts américains. Et donc une discussion très différente avec cette administration. On aurait également alors si on regarde plus au cas par cas les sujets qui ont créé des tensions au niveau transatlantique, que ce soit le climat, l'Iran, l'ambassade à Jérusalem, ce sont tous des dossiers où une administration Biden aurait pris des décisions très différentes et va probablement revenir sur les décisions de Trump. Donc, on aurait toujours des difficultés. C'est pas pour dire que la vie était parfaite sous Obama, et bien elle va redevenir parfaite avec Biden. Mais ça serait néanmoins une ambiance très différente, un style différent, et je pense qu'on pourrait travailler ensemble sur un certain nombre de cas de manière multilatérale, ce qu'on ne peut pas faire actuellement.
On évoque la Russie et ce qui se passerait précisément, les relations qui seraient nouées par les États-Unis avec la Russie si Joe Biden était élu, Nadia.
Oui, parce qu'on prend presque les mêmes et on recommence comme en 2016. Il y a des nouveaux soupçons d'ingérence russe donc qui pèsent sur cette nouvelle campagne. La semaine dernière, il y a quelques jours avant même, c'est le Washington Post qui assurait que Moscou était de nouveau à pied d'œuvre, notamment sur les réseaux sociaux, pour influencer les votes des Américains, mais en faveur de Bernie Sanders. pas parce qu'ils aiment beaucoup Bernie Sanders, mais parce qu'ils voudraient garder Trump à la Maison-Blanche. Leur analyse, et elle est partagée par beaucoup, c'est que Bernie Sanders est trop clivant pour les centristes et pour les indécis, il est trop à gauche, et qu'il aurait donc peu de chances de l'emporter face à Trump en novembre. Les services de renseignement américains auraient eux aussi informé le Congrès que Moscou chercherait à favoriser le président sortant. Et ce remake, ce déjà-vu, ça amène évidemment à s'interroger sur les liens que les États-Unis auraient avec la Russie en cas de victoire démocrate. Bernie Sanders, il s'exprime assez peu sur la Russie et sur Vladimir Poutine. En revanche, Joe Biden, il a toujours été très disert et plutôt hostile vis-à-vis des Russes. En 2007, par exemple, c'était au forum de Davos, il avait désigné la Russie comme la principale menace sur l'ordre libéral international. Il avait nommément accusé Poutine, je cite, de travailler avec tous les outils disponibles pour renier le projet européen. On en parlait. Il avait également fermement condamné l'annexion de la Crimée, la violation des accords de Minsk sur le conflit ukrainien. Et c'est aussi à cause de la Russie qu'il promet aux Européens et aussi aux États baltes, c'est important, un engagement sacré et non conditionnel des États-Unis dans l'OTAN parce que, dit-il, je le cite toujours, la Russie redoute un OTAN fort. Célia Belin, ce serait un changement pour le coup radical, autant vis-à-vis de la Russie que de l'OTAN, si Biden accédait à la Maison-Blanche. Il a des mots très durs hein, sur la Russie.
Ce serait un changement radical par rapport à un Donald Trump qui a des mots plus qu'amicaux avec son ami Vladimir Poutine. Simplement, on a derrière Donald Trump un parti républicain qui, lui, est beaucoup plus sceptique de la Russie parce que le reste des républicains n'aiment pas beaucoup les ingérences russes dans la campagne, qu'elles soient en faveur de Trump ou qu'elles soient en faveur du simple chaos. Et puis, de manière plus générale, on est maintenant dans un moment où l'Amérique sait qu'elle a perdu sa stature, son hyperpuissance. Et on est dans une phase de compétition stratégique avec deux grands États néo-autoritaires, la Russie et la Chine. Et donc, à ce titre, la Russie est un compétiteur structurel des États-Unis. Et donc, on va dans cette direction. Il n'y a que, évidemment, la personnalité particulière de Donald Trump sur ce dossier qui change les
choses. Pour préciser, dernière question sur l'OTAN, est-ce que l'OTAN serait sauvée avec Biden? On sait que l'OTAN était menacée sous Trump.
C'est vrai que Trump a dit que l'OTAN était obsolète. Cela dit, il l'a menacé, surtout, il a fait pression sur les Européens pour que les Européens
mettent la main à la poche.
Voilà, dépensent plus, en particulier les Allemands. Il n'a pas menacé au-delà. On se demande, on se pose la question dans une deuxième administration Trump s'il irait un cran au-delà et se détacherait vraiment de l'OTAN. Après, il y a des pressions. Le Pentagone soutient très fortement l'OTAN. Les alliés sont, les Américains sont attachés à leurs alliés. On ne peut pas imaginer que ça se délite. Mais de manière générale, les Européens ont compris que les intérêts de sécurité américains et européens sont en train de diverger. Et les Français en particulier font le point que l'Europe a besoin de construire sa défense. Et là, je pense qu'il n'y aura pas énormément de changements. Joe Biden comme Bernie Sanders est très attaché à l'OTAN, mais ils ne veulent plus d'intervention militaire au Moyen-Orient et les intérêts de sécurité divergent.
Oui, Jean-Éric Brana, sur la question du climat, je crois que et Joe Biden et Bernie Sanders sont pour revenir dans l'accord de Paris. Et Sanders veut même aller jusqu'à arrêter le gaz de schiste ou réduire le gaz de schiste qui garantit aux États-Unis leur indépendance énergétique. Est-ce qu'ils iraient jusque-là?
Oui, alors que Biden, on peut le dire, ne veut pas arrêter justement le gaz de schiste.
Pour des raisons électoralistes ou pour des raisons
Non, pour des raisons économiques. Oui,
parce qu'il y a un danger à vouloir arrêter le gaz de schiste.
Sous Obama, ça a été vraiment très développé parce que ça permettait d'aller vers une indépendance énergétique. Mais en même temps, parce qu'il y a en même temps, le but qui est d'aller vers l'énergie propre, aller dans les deux plans, celui de Bernie Sanders et celui de Biden, même si pour Bernie Sanders, c'est à plus brève échéance, puisque ce serait 2030 et c'est 2050 pour
Mais
Biden.
Mais quitte à se couper d'un électorat qui travaille dans les mines et qui vit de cette exploitation du gaz de
schiste. Et c'est pour ça que Biden est beaucoup plus loin dans le temps. L'argent qui est investi également dans ce but-là n'est pas de même nature, puisque pour Biden, c'est pardon, pour Sanders, c'est trois fois plus que pour Biden. Ce qu'il y a, Biden reviendrait à ce qui se faisait avant. C'est le Clean Power Plan, c'est, c'est ce fameux plan, on va dire, pour essayer d'être un petit peu vertueux, voire plus que vertueux, mais en s'appuyant sur les États. N'oublions pas que c'est un État fédéral et que rien ne se fait dans les États aux États-Unis. Et on peut se rassurer, beaucoup de choses ont continué, même sous Donald Trump, y compris dans des États républicains. On ne le dit pas assez. Donc,